Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette émission de Radio Linguistica dont le titre c'est L'histoire européenne, c'est quoi? Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais depuis 2017, il y a un musée de l'histoire européenne à Bruxelles. Aujourd'hui, nous voudrions présenter ce magnifique musée, expliquer sa conception et nous pencher plus généralement sur la notion histoire européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je salue ici Madame Constance Hitzel, la directrice du musée. Bonjour, merci d'être venue à notre émission.
Bonjour, avec plaisir.
Eh bien, d'abord, votre parcours professionnel. Comment est-ce que vous êtes devenue directrice du musée de l'histoire européenne?
Oui, alors j'ai commencé mon parcours professionnel par du travail dans les musées, justement, en Allemagne et un tout petit peu en France. J'ai appris le métier de conservateur de musée ou mise en charge des expositions. Et puis, j'ai un peu changé de parcours. J'ai travaillé pour la commission de la culture du Parlement européen. Et quand j'avais travaillé là, le musée, la maison de l'histoire européenne avait été proposée. Et du coup, j'ai retrouvé la profession que j'avais appris au début de ma carrière. Et donc, j'ai un peu, pour ainsi dire, réconcilié deux parcours professionnels en travaillant pour la maison de l'histoire européenne. J'étais d'abord conservatrice pendant la phase de création du musée. J'ai participé à la création des expositions permanentes et temporaires. Et puis, je suis devenue la directrice en 2017.
Peut-être deux mots sur le bâtiment où lequel se trouve le musée, juste pour donner le cadre.
Oui, alors vous voyez dans le fond à gauche le Parlement européen. Donc on se trouve ici dans le parc Léopold qui est juste entre le Parlement et le Conseil, si je puis dire. Vous voyez un bâtiment construit dans les années 30 pour abriter une clinique dentaire. Donc si vous étiez devant, vous verriez une inscription qui dit qu'il s'agit de l'Institut dentaire Georg Istmann. Donc c'était une donation pour un institut dentaire pour enfants défavorisés. Ça a fonctionné comme ça depuis les années 30 jusque dans les années 50. Et puis le bâtiment a eu plusieurs fonctions. Ça a été loué par le Parlement européen et d'autres institutions européennes. Et puis en 2008, le Parlement européen a décidé de le louer de son propriétaire, le CPAS de Bruxelles, pour une durée de 99 ans, pour y abriter ce musée. Et donc, vous voyez qu'on a construit entre 2009 et 2016 une extension moderne qui dépasse le bâtiment ancien et qui a été construite par les architectes Schex et Morel de Paris, avec un consortium d'architectes allemands et belges. Donc, c'est un bâtiment art déco avec une extension moderne dans le parc Léopold.
Oui, alors j'invite tout le monde à visiter ce parc qui est très beau avec des très beaux bâtiments et puis évidemment le musée de l'histoire européenne duquel nous parlons maintenant. Eh bien, quelques regards derrière les coulisses, l'histoire du musée, l'idée initiale, la réalisation, l'ouverture.
Oui, alors l'idée date de 2007, quand l'ancien président du Parlement européen, Monsieur Hans Gadd-Pöttering, a proposé ce musée. Il a proposé, en fait, dans son discours inaugural comme président du Parlement. Et puis, il y a eu d'abord un comité d'experts, d'historiens et d'experts en musée qui a rédigé un premier rapport pour explorer la faisabilité et puis les thèmes principaux qu'il faudrait trouver dans ce musée. Ce rapport a été approuvé par le bureau du Parlement européen et puis donc ça, avec ça, la création a été lancée et nous avons alors recruté une équipe européenne internationale d'historiens et d'experts en musée qui a commencé. En fait, c'était une phase préparatoire jusqu'à fin 2010 et puis l'équipe a commencé à travailler en 2011. Et on a mis 6 ans pour mettre sur place ce musée et son contenu parce que ce n'est pas une chose facile de se mettre d'accord sur une narration sur l'histoire européenne.
Eh bien, d'habitude, on associe avec la notion musée le passé. Le musée montre que ce qui n'existe plus ou qui a été créé il y a longtemps. Par exemple, dans le musée de sciences naturelles à Bruxelles, qui est d'ailleurs assez proche, on voit des dinosaures éteints il y a des millions d'années. Or, évidemment, le musée de l'histoire européenne ne veut pas ça. Il veut, si j'ai bien compris, montrer l'histoire européenne comme élément vivant et intégrant d'une Union européenne qui continue à exister. Quelle est donc la conception du musée? Comment éviter de montrer des dinosaures, c'est-à-dire des objets qui ont certes leur valeur historique, mais nous disent peu de choses pour le présent?
Oui, alors un des principes principaux de la création, de la sélection du contenu, ça a été de choisir ce qui impacte sur le présent. Parce que une des motivations des fondateurs de ce musée, ça a été d'expliquer l'Europe d'aujourd'hui. Donc, en fait, tout ce qu'on trouve, plus ou moins tout ce qu'on trouve dans ce musée, ce sont des processus historiques qui ont toujours un grand impact sur le présent. Et il faut pas citer peut-être le terme de présent du passé pour se rendre compte que des processus qu'on montre dans le musée, dont on va parler plus loin, ont toujours un impact et leur mémoire est très vivante et leur mémoire est aussi utilisée différemment. Donc, en fait, ce qu'on trouve là, c'est plutôt un musée d'histoire contemporaine, mais avec quand même qui va un peu plus loin dans l'histoire. Ce n'est pas que l'histoire contemporaine, mais ça a été le début parce qu'on a voulu expliquer l'histoire de l'intégration européenne à partir des années 50 dans leur contexte historique. Et avec contexte historique, je comprends aussi la moitié du siècle qui a précédé, mais aussi le contexte européen dans lequel le processus d'intégration européenne a commencé.
C'est-à-dire, si j'ai bien compris, la narration commence au 19e siècle et bon, atteint le présent.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas tout le 19e siècle, parce que c'est à nouveau c'est une sélection. Mais les thèmes dans l'histoire du 19e siècle qui ont beaucoup d'importance pour aujourd'hui, prenons le colonialisme pour exemple, prenons l'histoire des révolutions, l'histoire des mouvements nationaux et démocratiques, la question des droits de l'homme, donc tous des thèmes qui sont toujours importants aujourd'hui. Et donc, c'est une sélection, mais on va parler plus loin des critères, je crois, qui nous ont amenés à cette sélection.
Oui, évidemment. Bon, d'abord, j'aimerais me pencher sur la mémoire, c'est-à-dire les narratifs collectifs, qui sont une partie importante du bagage d'une nation. Mais y a-t-il une mémoire européenne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mémoire commune ou seulement une somme des mémoires nationale. Et si il n'y en a pas, peut-on construire une ou quelle mémoire divise ou réunit les peuples? Comment la mémoire est-elle traitée dans votre musée?
Oui, alors d'abord pour répondre à votre question, on parlerait toujours de mémoire au pluriel. Je crois que ça s'explique même si on regarde un seul pays comme la Belgique, par exemple, c'est clair qu'il n'y a pas une seule mémoire, même à un niveau national. Donc, on parle de mémoire au pluriel. Je ne dirais pas qu'il y a une mémoire commune européenne, mais qu'il y a beaucoup de processus historiques qui sont commémorés, qu'on partage et qui sont commémorés, mais de façon souvent assez différente. Donc, j'aime bien le terme aussi de mémoire partageable, pas nécessairement toujours partagée, mais partageable. Et c'est un peu le but de notre musée, de rendre les mémoires des unes partageables avec les autres. Donc, la mémoire est une sorte de fil rouge, une sorte de fil conducteur dans l'exposition permanente de notre musée. Parce qu'on commence déjà dans la première salle à expliquer les différents usages du passé, les différents aspects de la mémoire et aussi la dichotomie entre la mémoire et l'oubli. Parce que la mémoire définit aussi ce qu'on oublie. Il y a toujours une certaine sélection qui se fait tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et nous expliquons ça pour attirer l'attention du visiteur sur le fait que la mémoire à laquelle il est exposé, par exemple, que ce soit dans la sphère publique, politique, journalistique, c'est toujours une sélection qui est faite parfois avec des objectifs, parfois juste à cause du contexte, parfois à cause de l'expérience de la personne qui parle. Et donc la mémoire peut être utilisée pour réconcilier, comme ça a été le cas à Verdun, par exemple, mais la mémoire peut aussi être utilisée pour diviser. Et c'est fait dans les discours politiques actuels, c'est fait assez fréquemment. Malheureusement, que l'usage du passé est utilisé à des fins pour attiser des conflits, pour créer des séparations. Donc, on étudie aussi, on a différentes études de cas, par exemple sur la mémoire de la Shoah, on étudie à quel moment de leur histoire certains pays ont adopté une approche critique. Vis-à-vis de leur passé difficile. Donc, on regarde par exemple l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, mais aussi d'autres pays pour voir à quel moment la collaboration a été reconnue officiellement. Donc, avec cette étude de cas, on arrive à différencier, à montrer différentes approches vis-à-vis du passé. Et à montrer aussi toute la gamme de réactions qu'il peut y avoir. Et puis finalement, on se pose la question que vous avez déjà posée il y a quelques minutes sur, en fait, la différence de mémoire en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est depuis la chute du rideau de fer. Et donc là, il y a aussi une vitrine qui explore ces questions-là et qui se pose la question, par exemple, comment est-ce que la mémoire du communisme est traitée dans les différentes parties de l'Europe, comment est-ce que la mémoire de la Shoah, est-ce qu'elle est assez reconnue partout? Et je pense que c'est assez bien, en fait, d'interrompre la narration chronologique sur l'histoire par ces réflexions-là un peu plus théoriques, sur le concept de mémoire.
Eh bien, la Shoah, c'est un sujet, évidemment, le communisme, un autre. Peut-être que vous avez encore un exemple plus positif,
Ah
qui est
oui.
une mémoire partageable pour les Européens.
Oui, alors ce sont des mémoires. Évidemment, la mémoire, comment dire, collective, publique, est souvent influencée par les souffrances du passé. Donc, si on parle de mémoire, on parle souvent de mémoire de groupes de victimes, et c'est normal. Dans notre musée, nous montrons aussi évidemment des développements très positifs. Prenons par exemple le processus de développement des droits de l'homme, aussi les efforts de réconciliation et de coopération en Europe. En fait, on peut montrer, si on regarde notre exposition, qu'après chaque conflit majeur, prenons la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu d'énormes efforts en Europe de travailler ensemble, de coopérer et d'éviter qu'un nouveau bain de sang se reproduise. Donc, on peut voir ça, par exemple, dans la partie de l'exposition sur l'entre-deux-guerres. On peut voir, par exemple, qu'on parle de la création de la Société des Nations et de la coopération sous la Société des Nations dans plusieurs domaines importants, politiquement très importants. On parle aussi du mouvement Pan-Europa qui propose déjà la création d'une monnaie commune, la création d'une armée, la réconciliation de l'Europe. Et puis, on voit des efforts similaires après la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de la Cour européenne des droits de l'homme, la création du Conseil de l'Europe, et puis finalement, le processus d'intégration européenne qui commence avec la CECA dans les années 50.
Eh bien, on peut très bien discuter sur ces narratifs, sur la mémoire, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile de les montrer. Alors, vous pouvez peut-être donner quelques exemples pour des objets exposés qui montrent une chose si difficile à montrer comme l'intégration européenne ou les droits de l'homme.
Oui, alors l'intégration européenne, c'est un sujet intéressant parce que nous sommes le seul musée, le premier musée qui essaie vraiment d'exposer ce processus par une narration chronologique. Ça veut dire aussi qu'il n'y a presque aucun musée qui collectionne l'histoire de l'intégration européenne. Il y a évidemment les grands archives des institutions européennes, les archives historiques de l'Union européenne à Florence, mais la collection d'un musée collectionne aussi souvent des objets qui paraissent anodins, qui peuvent raconter une histoire dans une exposition, donc qui ne rentrent pas toujours officiellement dans les archives. Donc, nous avons commencé à collectionner nous-mêmes l'histoire de l'Union européenne. Et le premier exemple, peut-être, que je vais mentionner, parce que c'est aussi symboliquement le numéro 0001 dans notre inventaire, c'est la médaille du prix Nobel de la paix attribuée à l'Union européenne en 2012. C'est un objet type pour notre musée, parce que c'est un objet qui n'a pas sa place dans un des musées nationaux, voire locaux, mais qui a une place dans notre collection. Donc, ceci dit, comme il n'y a pas de musée ou presque pas de musée qui collectionne l'histoire de l'intégration européenne à grande envergure, avec l'exception de quelques maisons des pères fondateurs ou des musées spécialisés comme celui de Schengen, il n'y a pas beaucoup de prêts sur lesquels nous avons pu compter. Parce qu'il faut dire qu'on a commencé à créer le musée depuis zéro. On avait zéro collection. Ce n'est pas comme le Louvre ou d'autres musées qui ont des collections princières sur lesquelles ils peuvent construire leur narration. On n'avait rien, donc on a 60% de prêts de musées de partout en Europe, 200 institutions pour l'exposition permanente et puis quelques-unes pour les expositions temporaires. Et nous faisons des acquisitions. Et donc, pour illustrer le processus de l'histoire de l'intégration européenne, nous avons parfois eu du mal à trouver de beaux objets, mais souvent on a des surprises. Donc, on a souvent trouvé des objets très symboliques et aussi des objets un peu surprenants. Je vais prendre comme exemple un livre, une œuvre d'art créée par Rem Koolhaas qui représente l'acquis communautaire. C'est une œuvre d'art qui consiste en 80 000 pages de papier. Et c'est l'acquis communautaire avec le nombre de pages qu'il avait en 2004. Et ça, c'est un objet absolument magnifique parce qu'il est multiperspective. Il offre la possibilité, par exemple, de parler de qu'est-ce que c'est que l'adhésion d'un pays à l'Union européenne. Quel est le nombre de la quantité de droits que ce pays doit transposer dans son droit national. Pareil pour le Brexit, c'est le processus à l'envers. Et donc cet objet, il permet de parler de beaucoup de choses différentes, même de la bureaucratie que certains voient, ou alors du fait que l'Union européenne est une communauté de droit et que les processus d'européanisation de par le droit commun s'agrandissent de plus en plus, ont de plus en plus d'impact, et ça aussi on peut l'expliquer. J'ai donné un exemple, je pourrais en donner plusieurs. On a de beaux objets relatifs à la CECA, par exemple, où on a des traités, on a des esquisses sur la création de l'euro, des esquisses de la Commission qu'on a pu récupérer. Les designs, des notes, des billets d'euros. Donc, je pourrais donner plein d'exemples, mais je propose aux écouteurs de simplement venir voir au musée, de leurs propres yeux et de juger de ce qu'on a trouvé.
Oui, on en revient peut-être tout de suite parce que vous appliquez trois critères principaux pour le choix des objets. Alors, expliquez-nous un petit peu ces critères et puis donnez peut-être encore un ou deux exemples.
Oui, alors c'est un musée narratif. Donc, ça veut dire qu'il raconte une histoire, il raconte une chronologie, un peu l'histoire de l'Europe. La question au début, ça a été comment choisir dans l'immensité de l'histoire européenne, comment choisir les processus que nous allions exposer. Un des trois critères, je l'ai déjà mentionné, c'est l'importance du sujet pour aujourd'hui. Ça, c'était un des trois critères. Et ça, c'est plutôt pour sélectionner le contenu du musée plutôt que les objets. C'est vraiment pour les processus historiques exposés. Le deuxième, c'est ce qui est né en Europe, donc ce qui est les processus qui sont nés en Europe et qui ont encore et qui se sont répandus. Ça, c'est le deuxième critère, qui se sont répandus plus ou moins partout en Europe. Donc, si je prends des exemples, on parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, du communisme, de l'intégration européenne, aussi de la Shoah, et de tout ce dont j'ai parlé sur le 19e siècle. Tout ça, ce sont des processus historiques qui ont plus ou moins affecté tout le continent, mais il faut le dire avec des expériences très, très différentes. Donc, même si la Deuxième Guerre mondiale a touché tout le continent, les expériences dans les pays, les régions, les groupes de victimes, les groupes de malfaiteurs, si je puis dire, sont très, très, très différentes. Et ça, on essaie aussi avec plusieurs niveaux de narration dans l'exposition, des études de cas, des changements d'optique. On essaie aussi de réconcilier cette narration à un plan général avec les différences de perception ou les différences de mémoire ou les différences d'expérience qu'il y a en Europe.
Oui, peut-être vous pouvez m'expliquer un petit peu ou décrire un petit peu ce qu'on voit quand on entre dans votre musée. Alors, il y a plusieurs étages, si j'ai bien compris. Alors, comment est-ce que c'est reparti? Quelle est la structure?
Oui, alors le premier étage de l'exposition permanente, c'est des questions fondamentales comme qu'est-ce que c'est que l'Europe? Est-ce qu'il y a des frontières géographiques qui permettent de déterminer l'Europe d'une manière géographique? Évidemment, la réponse est non. Donc, c'est toute la discussion sur est-ce que l'Europe est une entité prédéfinie? Notre réponse, c'est évidemment que non, que le concept de l'Europe est culturel. Le concept de l'Europe est influencé par l'histoire européenne. Il est influencé par beaucoup de processus comme par exemple les commerces, même au Moyen Âge, les chemins du commerce, le christianisme, les universités, les réseaux des cloîtres, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup de développements dans l'histoire de l'Europe qui ont façonné ce que c'est que l'Europe d'aujourd'hui. Et la façon de voir l'Europe dépend aussi de où on se situe géographiquement, mais aussi dans le temps. Donc, on commence la visite pour le visiteur avec une mise en question et une, comment dire, on essaie d'attirer l'attention sur le fait que l'Europe est complexe et que chaque génération doit se faire sa propre image. Maintenant, après, quand on a passé cette première salle qui est vraiment très, très complexe et complète aussi sur la question de qu'est-ce que c'est que l'Europe, on entre dans une narration chronologique et alors on a trois étages de narration chronologique sur l'Europe du 19e et du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et puis, au dernier étage du musée, c'est le sixième étage, il y a plusieurs zones de réflexion, plusieurs zones de participation aussi, où le visiteur peut laisser son opinion, peut laisser sa citation sur l'Europe au présent et au futur. Il peut aussi, en fait, interagir avec des sites web. Il peut télécharger ses propres mémoires. C'est une collaboration avec le projet de My House of European History du Parlement européen. Et puis, c'est aussi une zone de réflexion où on peut faire des événements, des débats, où on peut inviter des groupes même à créer des petites expositions eux-mêmes. Donc, c'est aussi un espace participatif. Voilà pour la structure.
Il nous reste que peu de temps dans notre émission. Eh bien, nous sommes ici à la Direction générale traduction. Est-ce que les langues, le multilinguisme européen est présenté d'une façon ou d'une autre dans votre musée?
Oui, alors l'histoire des langues peut être visitée dans notre exposition permanente, même si c'est en fait inclus dans la narration historique. Donc, on commence par le mythe de Cadmos, le frère de l'Europe qui aurait amené l'alphabet en Europe. Et en fait, c'est une métaphore pour le fait que les alphabets européens sont influencés par l'alphabet phénicien. Après, on parle du développement des langues en Europe et leur lien avec les États-nations, parce que ça, c'est une spécificité européenne, que les langues se sont développées à partir du fin 18e, principalement le 19e siècle, par le fait qu'ils étaient liés à des mouvements nationaux et aussi à des territoires nationaux. Et donc, ce qui les différenciait beaucoup du développement antérieur, donc au Moyen Âge, où on a de grandes zones de langues germaniques ou romanes, etc. On parle des lingua franca aussi, comme elles changent. On parle du russe, du français, de l'anglais et de leur impact aussi dans le monde. Et finalement, on parle de l'interprétation et de la première utilisation de l'interprétation simultanée au processus de Nuremberg. Et puis aussi au Parlement européen, évidemment, comment ça devient de plus en plus complexe et qu'est-ce que ça veut dire d'organiser une démocratie européenne en tellement de langues.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tableau très détaillé, très vivant du musée de l'histoire européenne. J'invite donc tout le monde, ceux qui n'ont pas encore vu ce musée, de s'y rendre le plus vite possible. Ça vaut vraiment la peine. J'espère que vous l'avez compris avec cette description de ce musée et évidemment tout l'environnement, ça aussi, ça vaut la peine d'être visité. Eh bien, merci beaucoup et encore une bonne journée.
Merci, au revoir.